Bonjour à tous et merci d'écouter RFI. 11h en temps universel, il est 13h ici à Paris.
RFI Midi, Anne Contner.
RFI Midi, 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux, tour de l'actualité dans le monde. À la une aujourd'hui, la situation qui se crispe encore un peu plus à Los Angeles et ailleurs aux États-Unis. La ville de Californie passe la nuit sous couvre-feu et au moins 25 des manifestants qui ne l'ont pas respecté ont été arrêtés. Arrestation aussi massive de migrants par l'agence ICE. C'est contre elle que se mobilise la population. C'est à cause de ces manifestations que Donald Trump a envoyé la garde nationale et des marines sur place, provoquant l'indignation, notamment chez ce vétéran de l'armée.
C'est une insulte pour Los Angeles et pour les militaires. En tant que vétéran, je me dois de m'exprimer. Je veux que ces Marines voient que ce n'est pas normal d'être ici, qu'ils n'ont pas à suivre des ordres illégaux. Ce n'est pas pour ça que je me suis battu quand j'étais engagé.
Reportage de notre correspondant à Los Angeles où l'on dénonce des attaques contre la démocratie. Républicains et démocrates s'opposent radicalement sur cette question. On en parlera avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Nous irons aussi en Haïti, alors que le nombre de déplacés atteint un nouveau record, 1 300 000 personnes, à cause de la violence des gangs. L'arrivée de la société privée du très controversé Eric Prince fait débat. Entretien avec un expert des questions de sécurité, ancien conseiller au ministère de la Défense. Tout à l'heure, rendez-vous à partir de 13h, temps universel. Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
On commence par la situation dans les territoires palestiniens.
Oui, en Cisjordanie occupée, l'armée israélienne mène depuis hier matin une opération d'une ampleur inédite depuis des années dans la ville de Naplouse, dans le centre du territoire. Des dizaines de véhicules militaires sont entrés dans l'agglomération. Depuis, c'est toute la vieille ville qui est bouclée. Des sources palestiniennes citées par le journal israélien Haaretz parlent d'une opération jamais vue depuis la seconde intifada il y a plus de 20 ans. Alice Moreno.
Au petit matin, Bassel, habitant de Naplouse, est réveillé par un vrombissement dans les airs.
Tôt le matin, j'ai été réveillé par le bruit des drones qui dérangent tous les habitants de la ville.
Il réside en périphérie, mais l'hôtel dont il est le gérant est situé dans la vieille ville, au cœur du périmètre bouclé par l'armée israélienne.
J'ai regardé la vidéosurveillance et j'ai découvert l'hôtel plein de soldats. Ils sont vraiment dans toute la vieille ville de Naplouse. Personne ne peut y entrer ou en sortir.
Hier, à la mi-journée, une scène est filmée par des journalistes locaux. Des soldats israéliens tirent en direction de jeunes hommes. Deux Palestiniens sont tués, c'est ce qu'indique l'armée israélienne. Des dizaines d'habitants sont quant à eux pris en charge par le Croissant Rouge palestinien après avoir été asphyxiés par des gaz lacrymogènes. Salem, qui vit dans un quartier voisin, entend les affrontements.
Oui, j'entends les tirs. Cette nuit-là, ça a été l'opération la plus importante des dernières années.
Plusieurs soldats israéliens ont aussi été blessés au cours de cette opération. Alice Moreno, à Ramallah, RFI.
Et à Gaza, affamés, des Palestiniens ont tenté d'entrer dans un centre de distribution de colis alimentaires.
L'armée israélienne parle de tirs de sommation pour éloigner des suspects. Le bilan est très lourd. La défense civile dénombre 31 morts et 200 blessés. Les incidents mortels s'enchaînent depuis que l'aide humanitaire est gérée par une organisation au financement opaque, inexpérimenté, soutenue par les États-Unis et Israël. Les militants pro-palestiniens, dont 4 Français encore détenus en Israël, sont considérés comme des immigrés illégaux. Précision de l'ambassadeur israélien à Paris, après l'interception de leur bateau au large de Gaza, ils sont actuellement dans un centre de détention. Le but est de les mettre dans un avion vers la France le plus rapidement possible, après avoir été présentés à un juge, précise le diplomate.
Israël, où le Premier ministre doit convaincre les ultra-orthodoxes de rester au pouvoir pour que sa coalition tienne.
Le parti chasse menace de faire tomber le gouvernement en votant aujourd'hui en faveur d'élections anticipées à la Knesset. Il donne 2 jours à Benjamin Netanyahou pour trouver une solution avec toujours la même revendication, maintenir l'exemption du service militaire pour les juifs ultra-orthodoxes. Une question qui divise la coalition gouvernementale. Certains souhaitent leur enrôlement et des sanctions contre les réfractaires. Le vote d'aujourd'hui devra ensuite être confirmé plusieurs fois pour être effectif.
Le maire de Los Angeles a imposé un couvre-feu nocturne dans le centre-ville.
25 personnes ont été interpellées, indique la police, même si la nuit a été plutôt calme. Depuis vendredi dernier, des heurts, parfois violents, opposent les forces de l'ordre à des protestataires dénonçant les raids de la police fédérale de l'immigration contre des clandestins. Et le bras de fer politique continue. Le gouverneur démocrate de Californie entend contester en justice la décision de Donald Trump de déployer l'armée dans son État. Gavin Newsom a dénoncé une nouvelle fois hier soir un abus de pouvoir éhonté. Il menace de ne plus verser de taxes à l'État fédéral et la Californie pèse lourd. Agnieszka Kumor.
Avant même l'envoi de la garde nationale, c'est la possibilité d'un retrait des subventions aux universités californiennes qui a déclenché la colère du gouverneur. Leurs effectifs représentent 12% de l'ensemble des étudiants du pays. Si Gavin Newsom suggère que son État pourrait arrêter de verser sa contribution à l'État fédéral, c'est parce que la Californie paie plus d'impôts que ce qu'elle ne reçoit de financement de Washington. Sa contribution net est d'environ 80 milliards de dollars par an. L'État occupe une place à part dans le pays. La Californie est même la quatrième économie du monde en termes de production de richesses, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. En 2024, son PIB atteignait 4100 milliards de dollars. Réponse du secrétaire au Trésor au gouverneur, c'est de l'évasion fiscale. Gavin Newsom devrait plutôt prendre l'exemple de Trump, a écrit sur X Scott Bessent, et réduire les impôts pour permettre aux familles de conserver une plus grande partie de leur argent.
Le deuil national commence pour 3 jours en Autriche, dans un pays jusqu'ici épargné par la violence. Une bombe artisanale a été découverte lors d'une perquisition au domicile du tireur. Un ancien élève de 21 ans qui a tué 9 personnes dans un établissement scolaire de Graz, dans le sud-est du pays. Il s'est suicidé après la fusillade. L'enquête de police se poursuit pour établir ses motivations.
Nous serons sur place dans une demi-heure, dans notre demi-heure européenne, et puis on parlera aussi dans quelques minutes cette fois de l'attaque qui a eu lieu hier en France devant un collège et qui a poussé le gouvernement à demander 1 minute de silence dans tous les établissements scolaires demain.
En hommage à la surveillante tuée par un collégien, hier à Nogent, c'est dans le nord-est du pays, sa garde à vue se poursuit. Le Premier ministre François Bayrou souhaite l'expérimentation de portiques de sécurité à l'entrée des établissements scolaires. Les syndicats enseignants sont sceptiques quant à l'efficacité de ce genre de dispositif. L'exécutif a également décidé d'interdire la vente de couteaux aux mineurs et va mettre en place une mission sur la santé mentale des adolescents.
Toujours en France, le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles lance un grand plan d'action avec le soutien de la mairie de Paris.
L'objectif du CIDEF est d'alerter sur les violences masculines faites aux femmes âgées. Des violences invisibilisées, peu documentées. En 2023, 22% des féminicides concernaient des femmes de plus de 60 ans, alors qu'elles ne représentent que 4% des plaintes de femmes pour violence. Ce projet devrait permettre de mieux comprendre ce phénomène pour mieux le combattre. Marie Cazadebé.
Trop peu de femmes âgées victimes de violences, notamment conjugales, poussent la porte des commissariats et des structures d'aide, comme le CIDFF de Paris. Lucie Richard-Bergerot y est chargée de projet.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles vivent? Pourquoi ces femmes ne vont pas dans les structures de soins et d'accompagnement? On ne les voit pas et on ne sait pas comment aller les chercher, on ne sait pas comment les repérer, et donc il y a tout ça qui manque.
Ce qu'il manque, ce sont d'abord des données scientifiques. Il n'existe aucune enquête sur les violences conjugales en France concernant les plus de 69 ans. Alors que l'espérance de vie des femmes est de 85 ans et que les risques de violence ne s'abaissent pas avec l'âge. Émilie Adam-Vézina est responsable du pôle études et statistiques des CIDFF.
C'est souvent des femmes qui ont connu des violences conjugales pendant de nombreuses années et qui, au moment de la retraite notamment, se retrouvent en espèce de huis clos et les violences peuvent être exacerbées, mais avec d'énormes freins. L'incorporation de normes genrées, d'acceptation peut-être ou de seuil de tolérance plus grand liés aux violences. La peur aussi d'être dépendante d'une institution ou de la famille si jamais on se retrouve sans le sou parce qu'on ne connaît pas ses droits ni les aides.
Une étude de terrain va être menée à Paris pour mieux comprendre les mécanismes de ces violences. Elle devrait aider professionnels et associatifs à repérer plus facilement les femmes âgées qui en sont victimes.
La troisième conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit à Nice, dans le sud-est de la France. Et l'une des maladies dont souffre l'océan, c'est la pollution plastique. À quelques mois d'un nouveau round de négociations en août à Genève, le sommet est aussi l'occasion de préparer ce rendez-vous. 80% des déchets identifiés dans l'océan sont des déchets plastiques. Et les sites marins inscrits au patrimoine mondial ne sont pas épargnés. Alors hier, l'UNESCO a annoncé un partenariat avec le collectif Plastique Odyssée. Pour commencer, 25 îles classées au patrimoine mondial de l'UNESCO seront nettoyées. Les explications de Pauline Glaise.
Tout a commencé d'un premier partenariat sur l'île d'Anderson dans le Pacifique. Une équipe était déjà venue rassembler des déchets amenés par l'océan, mais elle n'a pas pu les évacuer, la barrière de corail bloquant l'accès. Plastique Odyssée, présidé par Simon Bernard, a relevé le défi.
On a envoyé une équipe de 10 personnes qui est restée sur l'île pendant 10 jours, qui a nettoyé donc les 10 tonnes de plastique et qui a pu donc extraire, en utilisant différentes techniques, ce plastique pour la première fois. Parmi les techniques, on a utilisé un parachute ascensionnel qui nous a permis de faire voler les déchets au-dessus de la barrière de corail.
Le partenariat avec l'UNESCO facilitera l'accès aux îles, habituellement interdites. Les expéditions auront aussi un caractère scientifique.
Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir faire un avant-après, étudier l'impact actuel de la pollution sur les écosystèmes, et ensuite revenir après un nettoyage de grande ampleur pour regarder quel impact ça a pu avoir.
Chaque île aura des problématiques différentes. Pour la prochaine sur la liste, Aldabra, un atoll des Seychelles, une reconnaissance sera effectuée en octobre. Mais la source de pollution n'étant pas tarie, nettoyer une fois ne suffira pas.
Si on y va tous les 5 ans, on est suffisamment rapide pour éviter la dégradation du plastique, éviter que ça se termine en microparticules et que ça soit derrière impossible à collecter.
Le plastique est ensuite recyclé en mobilier. Pauline Glaise, Nice, RFI.
Et c'est à Nice que se termine ce journal, Anne.
Merci Karine Bellicha, à tout à l'heure.
RFI, la France à midi.
Le choc, la sidération s'affiche en une de quasiment toute la presse en France. L'assassinat d'une surveillante de collège poignardée par un élève de 14 ans hier, juste devant l'établissement à Nogent, dans le Nord-Est, au moment d'un contrôle de sac par les gendarmes. Le Premier ministre parle d'une épidémie. Après un autre drame le mois dernier, cette fois c'est une élève qui avait été tuée par un autre collégien. Bonjour Marie Cazatepe.
Bonjour.
Le gouvernement multiplie les annonces depuis hier pour lutter contre les violences à l'école.
Oui, les autorités françaises n'ont pas attendu les drames de Nantes et de Nogent pour prendre des mesures. Il y a notamment ces fouilles de sacs et de cartables devant les établissements scolaires, réalisées de façon inopinée par la gendarmerie ou la police. Elles ont été mises en place fin mars suite à plusieurs agressions devant des collèges et des lycées. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces fouilles que le collégien de Nogent s'en est pris à une surveillante. Après ce drame, c'est l'installation de portiques qui fait son retour dans les débats. François Bayrou, le Premier ministre, l'a évoqué hier devant l'Assemblée nationale.
Je suis persuadé que nous ne pouvons pas rester simplement dans l'observation des accidents qui se multiplient. Et donc le gouvernement a lui aussi l'intention d'aller dans le sens de l'expérimentation de portiques à l'entrée des établissements scolaires.
Une solution qui a ses limites, Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, le précisait elle-même ce matin chez nos confrères de France Inter. Ces portiques ne peuvent pas empêcher l'entrée d'armes en céramique, par exemple, puisqu'ils ne détectent que les métaux. Le sociologue Laurent Fragerman est aussi sceptique. Il est spécialiste des questions éducatives.
En ce qui concerne les propositions de Monsieur Bayrou, elles ne sont pas réalistes financièrement et elles ne sont pas efficaces pour répondre si c'est un jeune déséquilibré. De toute façon, il y a des moyens de contourner ce genre d'outils. Par contre, pour un établissement qui serait dans un quartier sensible, confronté à des phénomènes d'intrusion de bandes, oui, les portiques sont utiles, donc c'est au cas par cas.
François Bayrou qui a aussi promis d'interdire tout de suite la vente de couteaux aux mineurs et de contrôler l'âge de celui qui recevra le colis pour les achats en ligne.
L'autre grande annonce, ou en tout cas l'autre grand souhait, c'est l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans.
Oui, ça devient un refrain et cela vient de l'Élysée. Emmanuel Macron veut les interdire d'ici quelques mois en France, si cela n'est toujours pas fait au niveau européen, où il y a des discussions en ce moment même. Mais pour Sophie Géhel, professeure en sciences de l'information et de la communication, interdire est infaisable. Elle est spécialiste des activités numérique des adolescents.
Pour l'instant, ces entreprises prétendent refuser les mineurs de moins de 13 ans. Dans la réalité, dès lors que les mineurs ne déclarent pas avoir moins de 13 ans, elles suppriment très peu de comptes et les jeunes trouvent tous les moyens d'y rester. Donc, Je ne vois pas très bien pourquoi on croirait davantage à une interdiction à 15 ans qu'à une interdiction à 13 ans. Et si c'est pas faisable et si c'est seulement dans la loi, j'ai peur que cela conduise plutôt à rendre ces pratiques comme étant purement transgressives, ce qui les rendrait encore plus invisibles.
Et donc encore plus difficile à encadrer, notamment du point de vue des contenus.
Ce drame de nos gens, Marie, il relance aussi le débat sur l'encadrement social des jeunes, notamment la présence d'infirmiers ou de médecins dans les établissements pour repérer les fragilités des élèves.
Oui, la ministre de l'Éducation a promis ce matin de nouveaux moyens, sans en préciser l'importance. Depuis des années, l'État va à l'économie sur ces sujets-là, à tel point que le pays ne compte qu'une infirmière scolaire pour 1500 élèves. Et dans le plan santé mentale qui sera présenté aujourd'hui par le gouvernement, il n'est question que de deux adultes référents psy par établissement, donc pas de professionnels de santé supplémentaires à l'horizon.
Marie Casadebé. La santé mentale, elle est censée être la grande cause nationale cette année, selon le gouvernement. Vous nous le disiez, Marie, le ministre de la Santé présente aujourd'hui les actions qu'il compte mettre en œuvre. En ce mois de juin, qui est aussi celui du handicap à Paris. Et dans ce cadre, des danseurs déficients intellectuels présentent dans un grand théâtre de la capitale l'élixir d'amour inspiré de l'opéra de Donizetti. Laurence Théo a rencontré la troupe lors d'une répétition.
De l'élixir d'amour, ces danseurs n'en ont pas besoin pour tomber amoureux.
L'élixir de l'amour.
Et c'est quoi l'amour ?
Cœur. L'amour, chaleureux.
Ah, c'est le nom de son amoureux.
Tous habillés d'une veste de travail bleu et d'un pantalon noir, Alice, Mounir, Emma, Kevin, Yaya et les autres forment une ronde en se donnant la main et sont prêts pour la répétition.
Nous allons faire la danse, l'opéra.
Et les voilà qui s'avancent au centre de la ronde, puis s'en éloignent sous la direction de Juliette Claire, danse-thérapeute.
On se regarde, on se sourit. Et on ne ferme pas les yeux, n'est-ce pas Alice ? On se regarde, on se sourit. Oui, Yaya, super. C'est très convaincant.
Juliette Claire salue les progrès des 10 danseurs, déficients intellectuels et très impliqués.
Moi, je suis émue de voir, en fait, entre septembre et maintenant, l'évolution des uns et des autres. Il y a vraiment quelque chose de très fort, une vraie amitié, je pourrais l'appeler comme ça, même si on est dans des lieux de thérapie.
Cheveux longs jusqu'en bas du dos, Miona assiste Juliette Claire. Elle se réjouit de ce projet qui intègre les gens différents.
Ça donne de la visibilité, ça montre que la danse peut être pour tous et par tous.
Les danseurs aiment leur éducatrice et Christine aime sa petite troupe.
On est très vivant, on est beaucoup dans la joie aussi. Et voilà, et notre gaieté parfois est communicative et laisse des sourires sur les visages des gens et ça, c'est pas mal.
Pour Christine Rousseau, cette collaboration avec le Théâtre des Champs-Élysées est réjouissante.
Moi, j'adore les faire venir dans des beaux lieux. Bon là, hein, le Théâtre des Champs-Élysées, avouez que c'est pas vilain.
Cette restitution de l'élixir d'amour se termine avec le mariage de Nemorimo et d'Adina. Mounir est en costume et dans les cheveux d'Alice, une couronne de fleurs.
J'ai qu'un amoureux et voilà.
Ça y est, vous êtes mariés ?
Je l'aime.
La concentration se lit sur ses sourcils froncés. Anissa a lancé des cris de joie pendant le mariage.
La musique de...
Et c'est sur cette célébration de l'amour et à regret que l'on quitte cette joyeuse équipe.
Reportage de Laurence Théo. Comme chaque jour, l'entretien politique, Véronique Rigolet, vous recevez Mélanie Vogel, sénatrice des Français de l'étranger et vice-présidente du groupe des écologistes au Sénat.
Bonjour Mélanie Vogel.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RFI. On va bien sûr parler de l'arrivée de la taxe Zucman au Sénat, la taxe sur les ultra-riches que votre groupe, les écologistes, va donc défendre demain à la Haute Assemblée. Mais pour commencer, Mélanie Vogel, un mot peut-être hein, sur le long satisfecit hier du président Macron, sur son bilan environnemental, malgré les critiques. Mais à la faveur des avancées enregistrées ces derniers jours à la conférence sur les océans à Nice, est-ce que vous partagez cette idée que Nice est un succès ou pas ?
Bon, déjà, ce n'est pas terminé. Nous verrons si nous arrivons à adopter le traité en question, ce qui évidemment je souhaite. Mais moi, j'avoue avoir été relativement désarçonnée par la posture qu'a pris Emmanuel Macron, à la fois pour se satisfaire de l'action de son gouvernement, de son mandat sur les questions écologiques et climatiques, alors que la France est en train, désolé de le dire comme ça, mais de sortir de l'accord de Paris par la petite porte en détricotant petit à petit
du traité de Paris. Ça va
par la petite
là.
Porte. Oui, parce que nous avons pris, et la France a été à ce moment-là, finalement, un acteur important de l'accord de Paris, puisque nous avions accueilli les négociations, la COP, et nous ne faisons pas les choses comme Donald Trump en annonçant que nous retirons notre signature, etc. Mais ces derniers mois, ces dernières semaines, nous voyons petit à petit, à l'Assemblée nationale et au Sénat, des votes qui détricotent un à un les engagements de la France en matière climatique, environnementale, en matière de protection de la biodiversité. C'est le cas sur l'agriculture avec la réautorisation de néonicotinoïdes extrêmement dangereux pour l'environnement et pour la santé publique. C'est le cas des ZFE, etc., etc. La suspension de la prime Rénov. Tout ça sont non seulement c'est plus seulement qu'on n'avance pas assez vite, c'est que la France est en train de reculer. Et se satisfaire de cela est assez incroyable. Et alors dénoncer, puisque c'est ce qu'Emmanuel Macron tente de faire, de nous expliquer que vraiment le gouvernement a tort.
Et le Parlement.
Et le Parlement, comme si lui n'avait pas de responsabilité dans la question.
Vous remarquerez qu'il a plus tout à fait la main depuis la dissolution quand même.
La dissolution qu'il a décidé lui-même.
Absolument.
Et le travail qui se fait aujourd'hui, qui est lié à sa volonté à deux reprises de nommer un Premier ministre issu d'un parti ultra minoritaire qui ne tient que par le soutien implicite ou explicite du Rassemblement national, qui a, comme toutes les extrêmes droites en Europe et dans le monde, les politiques climatiques et environnementales en ligne de mire. Donc si Emmanuel Macron veut que le Parlement français respecte les engagements de la France, eh bien, il aurait dû construire une majorité qui intègre celles et ceux qui sont arrivés en tête des élections et qui avaient pour ambition principale la justice climatique et sociale.
Vous dites un bilan pas très bon déjà et en cours de détricotage, quitte à remettre en cause la France dans les accords de Paris. J'aimerais qu'on reste un instant sur Nice. Vous attendez là encore un traité. Est-ce que, je repose ma question, il y a quand même quelques avancées à saluer sur le traité de protection en haute mer, l'extension des aires maritimes protégées?
Alors, le traité de protection en haute mer, si nous parvenons à le ratifier, évidemment, ce sera quelque chose de positif. Sur la protection des aires marines en France, et je vais essayer de ne pas être trop technique, en réalité, la France a une responsabilité extrêmement importante dans la matière, puisque vous savez que nous avons la deuxième façade maritime du monde, et donc une action très très importante, très impactante en la matière. Et en fait, il y a un grand décalage, une grande incohérence entre les paroles du gouvernement français et la réalité, puisque nous avons aujourd'hui dans notre droit des dispositions, des classifications pour les aires marines que nous voulons protéger qui ne correspondent absolument pas aux standards internationaux. Donc dans les mots, ça paraît bien, on vous dit zone de protection forte, vous vous dites fort, c'est bien, et en réalité ça ne veut pas dire grand chose en termes de droit international. C'est la raison pour laquelle nous déposons avec ma collègue Mathilde Olivier dans notre niche avec la taxe Zucman une proposition de loi sur la protection des océans pour que la France respecte les standards internationaux. Et nous verrons si Emmanuel Macron veut faire une avancée concrète en France sur la protection des océans. Bien, j'espère que l'ensemble des sénateurs qui le soutiennent voteront en faveur de notre proposition de loi.
Alors vous l'évoquiez, de l'écologie à la justice sociale, votre combat au Sénat va se porter demain dans la défense de cette taxe Zucman, la fameuse taxe sur les très très riches, déjà adoptée à l'Assemblée nationale en février dernier. Au moment où le gouvernement cherche 40 milliards d'économies à faire, vous défendez, vous, le groupe écologiste, cet impôt plancher de 2% sur les ultra-riches comme étant, dites-vous, un véritable dispositif anti-abus.
Oui, en fait, je crois qu'il faut que les auditeurs et les auditrices réalisent une chose dont on n'a pas forcément conscience, mais c'est, et les rapports de l'Institut des politiques publiques et de Gabriel Zucman l'ont démontré, c'est qu'aujourd'hui, la France est réellement un paradis fiscal pour les milliardaires. Et donc, à un moment où nous sommes en train, comme vous l'avez dit, de chercher des milliards pour combler le déficit public, nous nous disons, il y a plusieurs manières de combler un déficit. Vous pouvez faire ce que le gouvernement cherche à faire, c'est-à-dire réduire les dépenses en disant bah, « on dépense trop, c'est pour ça qu'on a un déficit ». Nous nous disons « si nous avons un déficit, c'est parce que nous ne gagnons pas assez ». C'est pas parce qu'on dépense trop, c'est parce qu'on ne gagne pas assez. Et pourquoi ? Parce que nous avons décidé à travers toute une série de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, de nous défaire d'un certain nombre de recettes publiques. Et la taxe Zucman, c'est en réalité quelque chose de très simple. C'est pas un nouvel impôt, c'est pas une nouvelle taxe. C'est un mécanisme qui permet d'éviter un peu, pas de manière révolutionnaire, un peu, que les ultra-riches évitent de payer l'impôt que vous et moi, nous payons normalement à des taux relativement élevés en France. Et donc, c'est une mesure simple de justice fiscale. Au moment où on dit « on cherche 40 milliards », comment voulez-vous que les Françaises et les Français adhèrent à l'impôt quand ils et elles savent que les plus riches payent deux fois moins d'impôts qu'eux, alors qu'ils disposent de patrimoine commensurable. Et comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens acceptent de faire
justice
des efforts
sociale, dites-vous, pour que les Absolument. Plus grandes fortunes payent autant que les classes moyennes. C'est comme ça qu'on peut résumer un peu l'esprit de cette taxe Zucman.
Tout à fait.
Ça permettrait, avez-vous calculé, en tout cas l'économiste Gabriel Zucman a calculé, de rapporter 20 milliards d'euros par an. La droite au Sénat est déjà vent debout et fait valoir le risque d'exil fiscal. Est-ce que c'est un risque que vous prenez en compte ?
Non, alors, il y a deux choses à avoir en tête. Enfin, si, nous avons évidemment réfléchi à savoir si ça allait provoquer cela. Il y a deux éléments à avoir en tête. Le premier, c'est que aujourd'hui, les très riches en France payent tellement peu d'impôts que ceux qui partiraient, s'ils partaient, auraient un impact très faible sur nos finances publiques. Parce que ces gens-là, aujourd'hui, ne payent quasiment pas d'impôts. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce qu'on constate dans les pays qui mettent en place des politiques d'amélioration de la justice fiscale, c'est que les personnes qui, effectivement, partent sont un nombre vraiment extrêmement faible. Et donc, nous considérons que ce risque est parfaitement illusoire et qu'en réalité, l'immense majorité resteront et les gains seront donc très importants. Et les quelques personnes qui pourraient partir paient déjà si peu d'impôts que le différentiel serait absolument infime.
Alors, dans un Sénat très conservateur, hein, on l'a dit, qu'est-ce qui vous permet d'espérer que ça pourrait passer à la Chambre haute ? C'est peut-être le fait que certains sénateurs centristes sont séduits par ce dispositif.
Oui, je crois que, en tout cas, le groupe centriste avait fait certaines propositions pour taxer les super-profits, etc., et n'est pas totalement insensible à la question de la justice fiscale. Et puis, nous avons constaté ces dernières semaines un certain nombre de maires en France, de maires de petites villes notamment, qui demandent une amélioration de la justice fiscale, parce que vous savez que nos communes en France subissent beaucoup les coupes budgétaires et demandent, pour pouvoir mettre en œuvre des politiques publiques en France, que les recettes de l'État soient partagées de manière un peu plus juste. Et le Sénat est, vous le savez, sensible à ce que pensent les élus locaux. Et donc, je pense que cette prise de conscience qui est générale peut participer à faire progresser le débat. Vous avez peut-être vu aussi qu'il y a un certain nombre d'experts, Jean Pisani-Ferry, Olivier Blanchard, etc., qui ne sont franchement pas connus pour être des économistes ultra-gauchistes.
Et qui sont favorables.
Et qui sont favorables, car ils considèrent que c'est une mesure, au fond, de bon sens, de simple justice fiscale, qui est normalement au cœur du contrat républicain, et que ça va nous permettre de mener les investissements que nous devons mener.
Et voilà la taxe Zucman demain au Sénat. Merci beaucoup Mélanie Vogel.
Merci.
Bonne journée.
À vous. Bonne journée.
Mélanie Vogel, sénatrice des Français de l'étranger, vice-présidente du groupe Les Écologistes au Sénat. Entretien avec Véronique Rigolet, retrouvez quand vous le voulez sur l'appli RFI Pure Radio. On parlait au début de cette interview de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui se poursuit toute la semaine à Nice, à suivre sur notre antenne bien sûr. et sur notre site, reportages et analyses sur les principaux enjeux de cette conférence, notamment les aires marines protégées ou encore les bactéries qui prolifèrent dans les déchets plastiques. Tout ça est à lire sur RFI.fr.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Deux cœurs dans mon corps, c'est le premier roman superbe de la poétesse et slameuse malgache Na Assi. L'histoire de Marao, née d'une mère encore adolescente et élevée par sa grand-mère. Une histoire poignante de non-dit, de transmission et de reconstruction.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsaire.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.